Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonjour et bienvenue dans Mardi Politique, une émission exceptionnelle avec le Premier ministre Manuel Valls. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une émission exceptionnelle. Mardi Politique a quitté ses studios à RFI en banlieue ouest pour Bondy dans la banlieue est de Paris. Nous sommes en direct du Bondy Blog. Un grand merci d'ailleurs au Bondy Blog pour leur accueil. Alors nous sommes Manuel Valls 10 ans jour pour jour après la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, le début de 3 semaines en France de violences urbaines à l'époque. En 2005, Manuel Valls, vous étiez maire d'Évry, c'est en banlieue. Quel souvenir personnel gardez-vous de ces journées et de ces nuits de novembre 2005 ?
Nous avons été, comme d'autres villes, touchés par ces mouvements, par ces troubles, par ces émeutes. Et j'ai en souvenir le fait d'être resté toute une nuit en mairie, puisqu'il y a une école qui avait été en partie brûlée. On parlait de personnes qui allaient peut-être s'en prendre à la mairie, à l'hôtel de ville dans lequel nous étions. Donc l'idée était de protéger, tout en étant sur le terrain, en agissant avec les associations, avec les parents, de protéger aussi cet édifice qui était la maison commune et qui représentait la ville.
10 ans après l'état d'urgence, l'urgence est toujours là. La politique de la ville est-elle un échec ? La République est-elle encore capable d'assurer l'égalité de tous et partout ? Ce sont quelques-unes des questions que vous poseront Ilyes Ramdani du Bondy Blog. Bonsoir.
Bonsoir.
Laure Breton de Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Roselyne Fèvre de France 24.
Bonsoir.
10 ans de discours politique sur la banlieue de 2005 à 2015. On va écouter une petite compilation avec, vous allez les reconnaître, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, Jacques Chirac, vous-même, Manuel Valls, Marine Le Pen et François Hollande.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Il est temps que la violence cesse.
Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela.
Je veux dire aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine, qu'ils sont tous les filles et les fils de la République.
Belle image de la ville d'Évry. Vous avez quelques blancs ? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côte.
Moi seul, je n'ai pas renoncé face à la drogue. J'entreprendrai une visite systématique des caves de toutes les banlieues de France et on y confisquera les armes, une par une.
C'est une toute autre image qu'il faut donner. Mon devoir en tant que président de la République, c'est d'assurer l'égalité de tous dans tous les territoires. Il n'y a pas de quartier perdu dans la République.
Il n'y a pas de quartier perdu dans la République, c'est ce que disait François Hollande la semaine dernière à la Courneuve en banlieue parisienne. Manuel Valls, question d'Ilyes Ramdani du Bondy Blog.
Manuel Valls, quand on vit dans ces quartiers comme moi, quand on les fréquente, quand on y est né, on sent pourtant que les gens se sentent perdus, que les gens sentent que ces territoires sont des territoires perdus de la République. Est-ce que vous en êtes conscient ?
Oui, il y a bien sûr, ce ne sont pas des territoires, ce sont d'abord des citoyens qui peuvent se sentir abandonnés, en difficulté, pas suffisamment aidés, pas considérés, pas respectés. Et donc, forcément, en dehors, en marge de la République. Et pourtant, ces villes qui sont différentes les unes des autres, ces quartiers qui ne vivent pas tous forcément la même situation, mais dans lesquels il y a des personnes qui sont en très grande difficulté, notamment les jeunes, ces citoyens sont des Français, sont des citoyens qui vivent en France et qui méritent le respect, le soutien et l'égalité. Et l'égalité qui doit s'appliquer sur tous les territoires. Et c'est sans aucun doute l'enjeu, ça fait 30 ans, mais ça reste un enjeu fondamental si nous ne voulons pas voir la République dans ces quartiers, mais pas seulement, mais dans ces quartiers se disloquer.
30 ans de politique de la ville, Manuel Valls, est-ce que c'est 30 ans d'échec, selon vous ?
Je ne peux pas le dire ainsi. S'il n'y avait pas eu cette politique de la ville, qui est née au début des années 80, qui a été incarnée en 1990 par le premier ministre de la ville, Michel Delbarre, après des émeutes en banlieue lyonnaise et parisienne. Je me rappelle, j'étais élu d'Argenteuil. Et je me rappelle des affrontements sur la dalle du Val d'Argent. Tout cela avait conduit à une politique de la ville qui soit ambitieuse. Michel Rocard, dans son discours de politique générale en 1988, là on fait presque de la préhistoire, avait évoqué les problèmes qui se posaient dans les quartiers.
Il s'était fait railler pour les cages d'escalier.
Oui, pourtant il avait raison, les cages d'escalier, les vitres cassées qu'il fallait remplacer. Et puis jusqu'à aujourd'hui, avec les annonces que nous avons faites hier, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense bien sûr à l'Agence nationale de rénovation urbaine, créée par Jean-Louis Borloo en 2004. Donc il y a une continuité avec des réussites de la rénovation urbaine, de l'embellissement de nos villes, du beau qui a été mis, parce qu'il faut du beau dans ces quartiers, des espaces publics qui ont été refaits, des transports qui sont aujourd'hui prévus. Mais ça n'a pas suffi pour traiter la question fondamentale d'un mot qui ne veut plus dire grand-chose, qui est le mot de mixité sociale, c'est-à-dire, bref, comment on fait vivre la diversité, comment on mélange les populations, quelles que soient les origines, et comment on lutte contre les inégalités, les discriminations qui frappent les populations, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, dans ces quartiers. Et ça, ça reste quand même le sujet principal. C'est-à-dire que la rénovation urbaine, les transports, les espaces publics, ça ne suffit pas. Mais il faut aussi avoir le courage de dire que ça met du temps. Alors, quand un responsable politique dit « ça met du temps », il dit la vérité, mais ceux qui vivent ces situations, ceux qui sont en difficulté, en exclusion, qui connaissent le chômage, qui connaissent l'échec scolaire, eux, ils sont dans l'urgence. Et donc, c'est ce rapport entre le temps nécessaire pour lutter contre ces inégalités et l'urgence dans ces quartiers, c'est là où il y a incompréhension et c'est là où il y a confrontation.
Alors, c'est effectivement ce temps, le temps de la politique, qui est un temps plus long que la demande citoyenne, qui provoque parfois de la déception. On l'a vu donc la semaine dernière au moment du déplacement de François Hollande à la Courneuve. Il y a eu des applaudissements, mais il y avait aussi des sifflets. Écoutez d'ailleurs ce que disait cet habitant de la Courneuve. Il s'appelle Nabil Mayouf. C'est un ancien militant socialiste. Il avait sa carte OPS en 2008. Aujourd'hui, il est engagé dans un collectif citoyen.
Il a trahi le peuple, et il a été élu sur des promesses qu'il n'a pas tenues, qu'il n'a pas respectées. Il a favorisé le chômage, tout simplement. Et là, aujourd'hui, il veut se rattraper. Il pense qu'il peut se racheter en venant racheter les banlieues, mais les banlieues ne sont pas à vendre. Aujourd'hui, il joue sur un événement qui a eu lieu en 2005, la mort de deux adolescents. Nous, aujourd'hui, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de lui. Le changement, c'est avant qu'il fallait le faire. Les réformes, c'est avant qu'il fallait les faire. Là, aujourd'hui, on vient avec des réformettes, mais on ne veut pas de ça.
Voilà, les banlieues ne sont pas à vendre. Manuel Valls, question de Roselyne Fèvre de France 24.
Pas achetées, surtout.
Dans un prochain rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes pointe une politique de moyens, mais pas de résultats. 5 milliards d'euros ont été débloqués en 2014. Alors ma question, c'est que dans le fond, est-ce que le défaut de la politique de la ville, ce n'est pas mettre de l'argent, beaucoup d'argent dans les murs et peu dans l'humain?
Mais ça, c'est un peu facile.
Mais non, les associations se plaignent de ne jamais, à ce que le politique n'associe jamais à la réflexion, les associations. Et c'est ce qu'elles vous disent sur le terrain.
Personne n'est propriétaire des banlieues. Elles sont ni à vendre, ni à acheter. Et personne ne peut d'ailleurs représenter la banlieue, les habitants, la jeunesse. Il y a bien sûr les maires, les élus, les associations, les collectifs. Ce qui est frappant, c'est l'abstention massive aux élections, qui marque une déception, une rupture civique, un désintérêt par rapport à ce qui se fait, y compris dans les quartiers qui ont été profondément rénovés, y compris dans les quartiers...
Mais ça ne suffit pas à la rénovation.
Y compris dans les quartiers où on a associé les habitants. Moi, j'étais maire pendant 11 ans d'Evry, dans le quartier emblématique des pyramides. Nous avons, et c'est pas fini, rénové le quartier, ouvert le quartier, qui est un quartier de centre-ville, hein, qui n'est pas un quartier de périphérie, rénover les écoles, mis plus de moyens dans les écoles pour accueillir les moins de 3 ans, pour le soutien scolaire, pour des politiques culturelles, des équipements sportifs, parce que le sport porte aussi des valeurs d'intégration, avec des équipes de foot, de garçons et de filles. Tout cela a été fait, mais on sent bien que ça n'est pas suffisant. Donc, beaucoup d'argent a été mis. On peut toujours contester telle ou telle politique publique, mais sans la rénovation urbaine, sans la rénovation urbaine, sans les moyens qui ont été mis pour l'école, et nous continuons, puisque c'est une priorité, ce que a encore proposé Najat Vallaud-Belkacem, c'est-à-dire, et que nous allons mettre en œuvre, tester dans des départements une politique qui vise à lutter contre la ségrégation à partir de la carte scolaire. Là, on est dans une politique qui veut des résultats. Mais comme on est, et vous le dites très bien, dans de l'humain, dans de la matière humaine, avec des inégalités qui se sont approfondies, avec le chômage, et pourtant il y a une soif de réussite, c'est dans les quartiers populaires où on crée le plus d'entreprises, des start-up, le Bondy Blog d'une certaine manière en est l'illustration, mais il y a d'autres réussites. Eh bien, il faut encourager par l'économie, par l'école, par l'exemplarité, par les moyens qu'on met sur l'urbanisme, sur l'école, sur la sécurité, pour le logement, mais c'est un travail de très longue haleine. Mais si nous n'avions pas mené ces politiques en continuité, droite et gauche d'ailleurs, il faut le dire, nous serions dans une situation épouvantable. Je suis très lucide sur la situation et sur les difficultés, mais à la place qui est la mienne, je n'ai pas d'autre choix que de poursuivre et d'amplifier des politiques qui sont indispensables pour ses habitants.
Alors notamment, Manuel Valls, des politiques pour favoriser la mixité sociale. Question de Laure Breton, de Libération.
Oui, vous dites on fait ce qu'on peut, mais comment on peut... C'est pas forcément une question d'argent, c'est ce que vous dites. Et comment on peut favoriser cette mixité que l'ANRU elle-même constate ne pas pouvoir promouvoir à fond? Comment vous dites, hier, vous disiez, il faut qu'on fasse venir des classes moyennes dans les banlieues et il faut qu'on fasse venir des familles modestes, peut-être dans des zones pavillonnaires. Comment vous faites ça en période de disette budgétaire et alors que les quartiers ne sont pas forcément rénovés?
Nous ne faisons pas ce qu'on peut. Nous ne faisons pas ce que nous pouvons. Nous faisons tout ce qui est possible pour ces quartiers. Et quand on engage 5 milliards d'euros pour la rénovation urbaine, le président de la République l'a annoncé il y a un an, c'est 20 milliards d'euros du coût généré d'investissement, c'est pour changer. Mais la rénovation urbaine, c'est long. Hier, au Murau, je discutais avec des habitants, quartier de la Vigne Blanche, là, vous avez de nouveaux appartements, des logements très sociaux, parfois, des espaces publics, des espaces verts, un univers où il fait bon vivre. À côté, il y a la Cité des musiciens, qui, eux, attendent la nouvelle phase de rénovation. Donc, je veux dire, c'est long, bien évidemment.
Mais comment on fait de la mixité sociale, Manuel Valls?
D'abord,
vous dites qu'il faut faire venir
aux communes,
les classes moyennes de venir,
c'est le plus difficile,
dans les zones urbaines sensibles.
Je vais y venir. D'abord, en faisant en sorte que les communes qui ne construisent pas de logements sociaux, c'est la loi Solidarité et Rénovation Urbaine,
la loi SRU,
une loi de gauche, donc la liste de 36 communes, la première liste que nous avons publié hier à travers le travail qui était fait par le délégué interministériel Thierry Repentin, vise à donner le pouvoir au maire pour délivrer les permis de construire là où cette loi n'est pas respectée.
Mais ça,
pour y construire, au préfet, pardon.
Ça fait des mois et des années qu'on l'entend, ça.
Oui, mais ça n'a pas été fait.
Mais pourquoi?
Parce que les mairies, beaucoup, ça a été fait. S'il y a une liste de communes, c'est que d'autres s'y sont engagés. Ne voyons pas tout par le négatif. Mais certaines communes, dites carencées, c'est-à-dire pour parler français, qui n'ont pas construit de logements sociaux, ont préféré payer l'amende qui était prévue.
3 ans que vous êtes aujourd'hui au pouvoir, pourquoi est-ce que vous n'avez pas agi avant? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rendu, par exemple, des maires inéligibles? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tout de suite décidé de donner le pouvoir au préfet d'une façon un peu plus musclée? Pourquoi est-ce que vous attendez finalement et qu'on a l'impression que vous venez d'arriver au pouvoir?
Non, il y a eu la loi Allure, qui celle présentée par Cécile Duflot, qui déjà avançait
sur
des propositions.
Sur les communes que vous dites carencées, il y a le même pourcentage de logements sociaux depuis 2012, il n'y a plus d'amélioration.
Mais ça veut dire qu'il faut poursuivre, continuer. Moi, j'accepte pleinement la critique sur le fait que ça n'a pas été assez vite. J'avais moi-même proposé, il y a quelques années, le fait qu'on puisse déclarer inéligibles les maires qui ne respectent pas la loi. Ça n'est pas constitutionnel. Et je préfère, moi, l'efficacité plutôt que les slogans, y compris parfois ceux que j'ai pu utiliser. Je préfère qu'on parte maintenant de ces villes, et là, on agit concrètement. Donc, les préfets reprennent... Pareil pour l'attribution de logements sociaux. Là, ce sont également les préfets qui vont se substituer sur leur contingent aux maires pour permettre à des gens de pouvoir vivre en logement social.
Vous parlez d'efficacité, ça veut dire résultat. Est-ce que vous pouvez donner une échéance, des objectifs à atteindre, concrets?
Il faut, dans ces villes carencées, c'est dans les mois qui viennent que...
Il y a une échéance, objectif, un ultimatum presque que vous leur donneriez?
L'ultimatum, c'était hier. À partir du moment où nous avons diffusé cette liste, les mairies savent parfaitement que les préfets vont agir. Et je vais moi-même aller sur le terrain dans les prochaines semaines avec des exemples précis pour montrer que l'État agit. Et puis, il y a cette mixité sociale en favorisant l'accès des ménages modestes à des quartiers plus aisés et en encourageant, et c'est le plus difficile parce que nous ne nous payons pas de mots, l'arrivée de ménages plus aisés dans des quartiers politiques de la ville, parce que vous ne pouvez pas obliger les gens à venir.
Bah non, voilà.
Alors comment on fait?
Bah, comment
nous sommes
dans une république démocratique.
Une réalité.
Eh bien, c'est par le changement d'image de ces quartiers, par la qualité de ces quartiers, par le fait qu'on y trouve là une école de très grande qualité, des moyens supplémentaires qui sont donnés au collège, au lycée, ce qui peut être bien sûr un argument pour les parents pour s'installer.
Il faut du travail.
Des transports qui soient efficaces et l'image de ces quartiers. Parce que, franchement, la manière dont on parle des quartiers, des banlieues, des cités, de la politique, de la ville, c'est en permanence une contre-manifestation, une contre-publicité, une contre-communication qui est faite sur ces quartiers, où il y a pourtant du beau, un potentiel, des moyens qui sont mis, du travail. Au Mureau comme à Évry, l'emploi ne manque pas. Dans une ville comme Évry, il y a 50 000 habitants et autour, il y a au moins 80 000 emplois. Mais l'adéquation entre l'offre de ces emplois et la formation, la qualification des habitants n'est souvent pas en adéquation.
Il y a une autre chose, c'est que les emplois existent, Manuel Valls, mais qui sont souvent occupés par des gens qui habitent hors ce territoire. Je pense à toutes les grandes entreprises qui s'installent en banlieue. Sûr. Elles embauchent très, très peu en banlieue. Les zones franches, par exemple, ont assez peu marché. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement contre ça?
Elles ont avancé, mais nous sommes dans une économie ouverte et pas dans une économie administrée.
Est-ce qu'on ne peut pas inciter une entreprise à embaucher localement?
Les zones franches urbaines ont marché, mais avec forcément...
Des résultats très contrastés, avec, le chômage n'a pas baissé.
Avec leurs limites, bien évidemment. Moi, je l'ai vu parce que je pars toujours de mon expérience. Il y a beaucoup d'habitants de ma ville, dont je suis toujours conseiller municipal, qui travaillent à côté. Et puis, il y en a beaucoup qui prennent la ligne D du RER et qui travaillent au centre de Paris, qui font des heures de transport. Donc, on bouge. Mais en Île-de-France, cette mobilité, elle est parfois contredite, empêchée par des moyens de transport qui ne sont pas à la hauteur des mouvements, même si aujourd'hui il y a des investissements importants et que les choses vont plutôt dans le bon sens. Mais oui, c'est par le travail que font les missions locales. Hier encore, parlons des exemples concrets. Au Mureau, ce que j'ai vu dans la mission locale,
rapidement,
c'est
Manuel
ce
Valls,
partenariat.
S'il vous plaît.
Je réponds, pas rapidement, je réponds tranquillement, parce que ce sont des sujets importants. C'est ce lien entre de grandes entreprises qui peuvent embaucher des jeunes ou des moins jeunes, à condition que les qualifications soient là. Et donc c'est tout le rapport aussi de l'éducation nationale par rapport aux attentes des entreprises qui est en train d'être visité.
Alors, Monsieur le Premier ministre, le chômage, on en parlait chez les jeunes, dans certains quartiers, c'est 40% des jeunes qui sont au chômage. C'est un des griefs qu'on entend contre le pouvoir actuel, contre votre gouvernement et contre François Hollande. Il y a aussi un autre grief, c'est celui des promesses non tenues. Il y en a une qui est symbolique, que la gauche met sur le tapis depuis 30 ans, quasiment, c'est le droit de vote des étrangers. C'était la proposition 50 du programme de François Hollande. Pourquoi le droit de vote des étrangers, cette promesse, n'est pas appliquée aujourd'hui, cet engagement de François Hollande?
Mais parce qu'il faut changer la Constitution.
Pourquoi on ne change pas la Constitution?
Il faut un langage de vérité. Parce qu'il n'y a pas de majorité qualifiée pour le faire.
Mais est-ce que ça n'aurait pas été à l'honneur de la gauche, justement, d'aller chercher la droite et de montrer que vous aviez essayé et que vous aviez tenté et que
je connais par cœur ce débat. Les postures des uns et des autres.
Mais est-ce que ce n'est pas une posture en campagne pour se faire applaudir, notamment par les jeunes socialistes, de dire on va faire le droit de vote des étrangers?
Ça, c'est autre chose. Mais on peut être favorable, je le suis toujours, au droit de vote des résidents étrangers non communautaires. Parce que il est là l'objectif. Moi, ce que je souhaite, c'est que d'abord, dans ce pays, on vote davantage. Et notamment dans ces quartiers. Les Français...
Mais comment faire voter les gens si les candidats ne tiennent pas leurs promesses une fois au pouvoir?
Les Français qui vivent dans ces quartiers, eux-mêmes, ne votent pas pour les raisons que j'évoquais. Les taux d'abstention sont particulièrement importants et donc inquiétants. Le droit de vote des résidents étrangers non communautaires nécessite un changement de la Constitution. Il n'y a pas de majorité au Parlement, au Congrès, réunis, Assemblée et Sénat, il n'y a pas de majorité qualifiée. Et si vous voulez faire un référendum pour changer cela, je vous donne le résultat, c'est-à-dire massivement contre. Et en plus, nous allons exacerber les tensions autour de cette question.
Donc, ratifier la charte des langues régionales, donc vous allez bien essayer.
Donc, oui, mais moi, si c'est pour essayer, exacerber les tensions, dire qu'on a utilisé ce sujet à des fins politiques pour faire monter le Front National comme... Cela nous a été
Monsieur
souvent
le Premier ministre,
dit, ça ne me paraît pas utile. Donc moi je préfère me concentrer
pause,
sur l'essentiel
ministre,
et notamment sur les naturalisations.
À tout de suite, dans 5 minutes.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec le Premier ministre Manuel Valls en direct du Bondy Blog en banlieue parisienne avec Ilyes Ramdani du Bondy Blog, Roselyne Fèvre de France 24 et Laure Breton de Libération. On l'a évoqué, monsieur le Premier ministre, dans la première partie, la question du chômage en banlieue. Hier, parmi les annonces que vous avez faites au Mureaux lors de ce comité interministériel, il y avait le sujet du testing et de la discrimination. Question de Laure Breton de Libération.
Oui, en fait, on se demandait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de lancer une campagne nationale pour constater qu'il est plus difficile de se faire embaucher quand on est Mohamed à Bondy plutôt que Pascal à Neuilly? Qu'est-ce que vous espérez avec cette campagne? Vous dites que vous allez faire un dialogue avec les entreprises qui n'embaucheraient pas assez de gens issus de la diversité, mais est-ce que les entreprises, telle proposition, est-ce que les entreprises peuvent avoir peur ou est-ce que...
Non, mais la discrimination, c'est d'abord un délit. Donc, il faut d'abord faire respecter la loi. Appliquer le droit et en même temps consolider notre arsenal pour lutter contre ces discriminations, ce racisme qui sont une réalité en effet, vous venez de le dire. Dans la loi que présente dans quelques jours au Sénat Christiane Taubira sur la justice du XXIe siècle, il y a la création de cette action groupe qui a déjà été annoncée, qui est attendue mais qui pourra dans les mois qui viennent rentrer dans les faits, c'est-à-dire qui permet aux victimes de se regrouper, ça existe aux États-Unis, et d'apporter plus facilement, parce que c'est toujours insidieux, la preuve de la discrimination. Et puis il y a en effet ce dispositif national de testing pour mettre au jour les pratiques discriminatoires qui existent dans le monde du travail. Il faut le faire par la loi, dans le dialogue, par la preuve aussi avec les entreprises, parce que cette discrimination, elle se joue parfois à plusieurs niveaux de l'entreprise.
Mais des opérations de testing, ça fait des années qu'on en fait.
Des années, bien sûr.
Mais on le sait, pourquoi en refaire ?
Mais parce qu'il faut en permanence mener ce combat. Vous êtes drôle, vous.
À quel moment on agit alors ? Si on a testé, on a testé. À quel moment est-ce qu'on agit ?
Mais par l'application de la loi. Mais vous le savez parfaitement que cette discrimination, elle est parfois insidieuse au travail, pour le logement.
C'est pour ça qu'il est difficile de la faire condamner. Est-ce que c'est pas un système ? Est-ce que c'est pas un fonctionnement qu'il faut réformer ?
Eh bien, il y a deux choses. La loi, faut l'appliquer. L'action de groupe va permettre aux individus de mieux agir ensemble et de mieux se protéger. Et troisièmement, par le testing, l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics montrent que non seulement ils prennent conscience pleinement de ce problème-là, mais qu'on veut obliger les entreprises. Vous nous dites qu'il faut agir. Et dès qu'on agit, il fallait faire autrement.
Vous nous dites aussi qu'on n'est pas dans une économie administrée. Donc qu'est-ce que vous ferez une fois que vous aurez constaté?
Moi, je pense que ces questions-là, même s'il y a beaucoup de difficultés, même s'il y a encore ces discriminations qui peuvent le nier, la société avance. Beaucoup de grands groupes aujourd'hui ont pleinement pris conscience de ces problèmes-là et participent même à la lutte contre les discriminations. Mais il faut agir par la preuve et par l'exemplarité.
Alors, Manuel Valls, ce que les émeutes de 2005 ont montré notamment, eh bien, c'est une vraie défiance qu'il existe entre une partie de la population dans ces quartiers et la police. Ilyes Ramdani.
Hier, vous avez annoncé la généralisation du système des caméras piétons. Les caméras piétons, moi j'habite à Aubervilliers et je les ai vues à l'œuvre. J'ai vu surtout que les policiers les activaient quand ils le voulaient. J'ai vu surtout qu'ils les activaient quand les gens se plaignaient d'un contrôle, par exemple, abusif, en disant « Regardez, vous êtes filmé. Qu'est-ce que vous en attendez ?» Et puis la deuxième chose, est-ce que finalement la vraie réforme à faire contre le contrôle aux faciès, c'est pas ce récépissé que vous avez enterré dès votre arrivée au ministère de l'Intérieur ?
Oui, j'ai considéré que ça n'était pas efficace. Et je l'assume. Et moi, je ne suis pas à la recherche d'un totem pour en faire un slogan, je le disais tout à l'heure.
Ce que on est à la recherche de résultats, est-ce que vous pensez que les caméras piétons peuvent en amener ?
L'efficacité, oui, mais ce que nous avons fait, c'est, je crois, beaucoup plus efficace. C'est le port du numéro de matricule apparent pour les policiers et les gendarmes. C'est le code de déontologie commun à la police et la gendarmerie.
Pour être sur le terrain, le tutoiement, par exemple, est régulièrement utilisé.
Il est scandaleux, oui, mais il y a... Mais,
je prends cet exemple du tutoiement parce que c'est celui que je connais.
Oui, mais ça existe bien évidemment. Mais moi, je ne peux pas me contenter uniquement de constats d'échecs où ça ne marche pas assez vite, où ça ne marche pas.
Justement, donc, les contrôles aux faciès existent. Qu'est-ce qu'on fait
contre... et pourquoi ça marcherait mieux alors de ce que vous dites ? Donc, numéro apparent pour ce code d'immatriculation sur les policiers et les gendarmes. Possibilité, et ça marche, de saisir l'inspection générale de la police nationale ou de la gendarmerie. Il y a un site internet dédié à cela. Il y a la création des délégués cohésion, police, population, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais en tout cas, c'est essentiel. Il y a la diversification des recrutements dans la police et la gendarmerie, puisque ces dernières doivent être comme la population. Et puis, il y a ces caméras piétons que nous allons généraliser. Julien Drey, ce matin, disait sur une émission qu'il avait raison, je crois. Ça serait beaucoup plus efficace, ça a été démontré dans d'autres pays, que le récépissé. Donc moi, ce que je souhaite, c'est des éléments d'efficacité pour que
précise,
la police et la gendarmerie respectent la population, mais en apprenant aussi à la population et aux jeunes de respecter policiers et gendarmes,
Monsieur
parce que ça ministre, va dans les deux sens.
C'est aussi un outil de protection des policiers quand il y a contestation, s'il y a bavure. On a souvent vu. Voilà,
ces caméras piétons ne sont pas uniquement là pour lutter contre les discriminations, que personne ne nie.
Elles
sont
protection.
Aussi un élément de protection pour.
Pourquoi ne pas les activer automatiquement ?
Faciliter l'enquête. Oui, mais je pense qu'il faudra. Je pense que je pense que nous allons tirer effectivement un certain nombre de leçons pour voir quand est-ce que elles sont actionnées en permanence, en tout cas quand c'est
indispensable.
Par
exemple, vous souhaitez qu'elles soient activées dans quel type de circonstances ?
Dès qu'il y a contact, dès qu'il y a tension, dès qu'il y a confrontation.
Donc ça reste à l'appréciation du policier.
Oui, mais moi je veux faire confiance aux forces de l'ordre. Si vous voulez, moi là. Je ne veux pas que nous vivions dans une société de défiance.
Non, mais ça peut être un outil de contrôle, de transparence.
Je ne méconnais pas, encore une fois, les tensions qui peuvent exister entre la jeunesse et les forces de l'ordre, et tout simplement les institutions et la société adulte. Je ne méconnais pas les tensions, je ne méconnais pas non plus la difficulté pour les policiers de travailler dans un certain nombre de quartiers qui sont sous l'emprise de la violence et des trafics. Il ne veut pas dire que tous les jeunes sont des trafiquants. Et c'est cette distinction qui doit être faite et qui est difficile parfois dans le métier de policier. Mais les outils que nous avons mis en place doivent permettre d'apaiser les relations entre la police et les citoyens, et notamment les citoyens qui, évidemment, et c'est la grande majorité, fort heureusement, qui n'ont rien à se reprocher. Je veux des outils efficaces et je veux de la confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens, et notamment les plus jeunes.
Quels outils pour lutter contre la radicalisation dans certains quartiers, elle prend de l'ampleur? Vous aviez commandé cet été un rapport au député socialiste Malek Bouti, qui est par ailleurs ancien président de SOS Racisme, et c'est un constat assez terrible qu'il faisait dimanche sur BFM Télé.
Il faut faire attention aux raccourcis, on ne peut pas faire porter au président de la République, aux deux derniers, la responsabilité de la situation. Je pense qu'il y a un toboggan dans lequel on est installé depuis plusieurs années et qui nous amène à l'irréparable. À l'irréparable, puisque maintenant ces quartiers produisent des terroristes. C'est donc extrêmement différent. 10 ans après, ce ne sont plus des émeutiers, ce sont des terroristes. Alors, on ne généralise pas, ce n'est pas l'ensemble de la population, mais ça montre à quel point ces banlieues sont l'objet... C'est une sorte de spectacle régulier, mais qui n'est inconséquent sur le terrain politique.
Monsieur le Premier ministre, vous reprenez cette formule, les banlieues sont passées en 10 ans de la délinquance au terrorisme.
Je partage le constat qui est fait par Malek Bouti dans son rapport, c'est-à-dire sur le fait, mais je l'avais fait comme ministre de l'Intérieur, à partir du moment où il y a des centaines d'individus, parfois très jeunes, des mineurs, des garçons et des filles, qui sont aujourd'hui dans des filières terroristes en Syrie, en Irak, qui pour certains d'entre eux retournent les armes contre leur propre pays. Je partage le constat que cela peut concerner à terme des milliers de personnes. Alors nous ne cherchons aucune excuse, mais évidemment ça nous interpelle sur comment en France, mais dans les sociétés européennes, mais pas seulement, regardez ce qui se passe au Maghreb, nous avons ainsi fabriqué ce phénomène. Et donc, du coup, il faut y apporter une réponse très ferme sur le plan sécuritaire, c'est tout, les lois antiterroristes, la loi sur le renseignement, très ferme sur le plan judiciaire, et ça passe bien sûr par une coopération internationale, mais ça nécessite aussi un mouvement très profond de lutte contre cette radicalisation, et qui passe par les travailleurs sociaux, par les caisses d'allocation familiales, par les associations, par des relais sur le terrain, par les campagnes sur Internet, par les familles qui sont très directement concernées, mais c'est un mouvement qui nécessite que tous les services publics se mobilisent, parce que c'est un problème essentiel et qui est loin d'être terminé, et là aussi, c'est l'affaire d'une génération.
Alors, Monsieur le Premier ministre, lors de votre premier discours de politique générale, vous avez déclaré une phrase forte qui était frappée, à mon avis, au coin du bon sens, « La parole politique est devenue une langue morte ». Et quand on lit le dossier de presse que vous avez remis aux journalistes pour prévenir la radicalisation, là je me dis que la langue, elle est devenue archi-morte. En prévenir la radicalisation, il est écrit « Mettre la prévention de la radicalisation à l'ordre du jour des prochains comités de pilotage, des contrats de ville et conseils locaux de sécurité et de prévention de la prévention ». Pardon, mais j'ai rien compris.
On est toujours trahi par les siens.
C'est de la langue tech, comme on dirait au Blondie Bank.
Donc Ce qui compte, c'est ce que nous avons entrepris depuis un an et demi, à l'instar d'autres pays. Mais c'est ce que nous sommes déjà en train de
faire. Mais c'est
quoi ? Mais c'est de la mobilisation, notamment des familles, des outils. Je pense par exemple aux travailleurs sociaux. Vous savez que l'un des problèmes majeurs, mais on le retrouve dans les politiques éducatives, dans la lutte contre la délinquance, ou par rapport à la jeunesse qui est en difficulté, au problème de l'enfance, c'est de faire travailler les différents services publics. Les travailleurs sociaux, par exemple, ont aujourd'hui pris pleinement conscience de leur rôle. Donc, il faut les faire travailler ensemble avec magistrats, policiers, enseignants, parce que c'est comme ça qu'on traite la réponse qu'on doit apporter à une famille qui voit. C'est parfaitement concret, vous m'avez bien compris.
Un chiffre concret, en prison, aujourd'hui, il y a 900 aumôniers, 150 imams, c'est 6 fois moins que le nombre d'aumôniers, notamment chrétiens. Est-ce que vous avez envie que le chiffre soit arrivé à égalité? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Mais là aussi, quand nous avons réuni les institutions de l'islam de France, c'est une priorité, donc il faut former. Mais vous le savez que c'est difficile aujourd'hui, parce que l'islam n'est pas organisé, l'islam sunnite dans notre pays n'est pas organisé, parce que nous avons du mal à trouver et des imams et des aumôniers.
Je prends par exemple Manuel Valls, l'imam de mon quartier, qui souhaitait devenir aumônier dans une prison, qui a été refusé par vos services, parce qu'il n'entrait pas probablement dans la ligne. Comment vous justifiez ça? Quelle est la volonté de l'État d'administrer également
l'islam? Je ne peux pas vous répondre sur cet exemple-là, et de quelle ligne vous me parlez?
D'une ligne notamment idéologique. Est-ce qu'il y a un discours que vous recherchez?
Quelle ligne idéologique? Il n'y en a qu'un qui compte pour moi, c'est celui de la République, de la laïcité, de l'égalité homme-femme, des valeurs que nous pouvons partager. Est-ce qu'il y a une autre ligne à celle-ci?
Imams ne sont pas forcément républicains, sans pour autant qu'ils soient pro-djihadistes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Je n'ai pas dit cela, mais je pense que tout le monde doit être républicain dans notre pays. Ça, c'est clair. C'est peut-être une différence que nous avons.
C'est une façon de poser la ligne.
Donc, parce que vous posez, vous, la question avec...
Parce que je prenais un exemple très concret.
Sous-entendu. Non, mais moi, je ne sais pas ce cas. En tout cas, il doit obéir à un certain nombre de critères. Mais ne nous racontons pas d'histoire. La radicalisation en prison, ou tout simplement, surtout dans la société, parce que c'est surtout dans la société, elle ne se fait pas à travers les individus. Elle ne se fait même pas à travers un imam ou pas. Elle se fait le plus souvent sur Internet, directement avec des sites djihadistes. Et ça agit beaucoup plus sur l'esprit des jeunes, même si, encore une fois, oui, moi je souhaite des imams formés qui parlent français, qui diffusent un islam apaisant. Et c'est l'immense majorité des Français, des citoyens de confession et de culture musulmane qui pratiquent cet islam de paix. Eh bien, que cet islam de paix soit diffusé sur Internet, soit diffusé dans les mosquées et soit diffusé, bien sûr, dans les prisons où les défis sont tout à fait considérables. Je l'ai dit hier, il y a un message à faire passer au moment où l'islam est en permanence accusé d'être au cœur des maux de la société française. Il y a un message qui est celui, les citoyens et nos compatriotes de confession musulmane sont, Jacques Chirac le disait dans le passage que vous évoquez en parlant des enfants des quartiers, bien eux aussi, ce sont les enfants de la République.
Manuel Valls, c'est l'invité de Mardi Politique sur RFI en direct du Bondy Blog. Vous êtes sur RFI. Monsieur le Premier ministre, on nous écoute beaucoup, notamment dans les pays du Sud, en particulier en Afrique. Qu'est-ce que vous dites là à un jeune qui est sans espoir dans son pays et qui veut rejoindre la France, qui a envie de France ?
Je le comprends. Et donc c'est pour ça qu'il faut que la mobilité des étudiants, notamment, de ceux qui pratiquent la culture, des hommes et des femmes aussi d'affaires qui ont des entreprises, que cette mobilité, elle soit aujourd'hui beaucoup plus performante. C'est ce que nous avons fait en abrogeant, j'étais ministre de l'Intérieur, les textes que Claude Guéant avait pris pour restreindre cette mobilité. Mais j'ai envie aussi de lui dire, et c'est un message plus général, que l'Afrique est plus que jamais le continent d'avenir, par sa démographie, par sa richesse, par sa croissance, par son dynamisme, ce qui n'a rien nié les problèmes considérables que l'Afrique a traités, de santé, d'économie, de guerre, de terrorisme, de pauvreté, mais c'est le grand continent. Et s'il y a un projet pour l'Europe et pour la France, plus que jamais, c'est d'aider au développement de l'Afrique. Parce que si nous n'aidons pas au développement de l'Afrique, eh bien les problèmes que vous évoquez, celui des réfugiés, celui des migrations, vont se poursuivre. Et nous aurons à ce moment-là de plus en plus de mal à les juguler.
Venons-en à présent aux élections régionales et cette cacophonie qui s'installe dans la majorité, alors que les sondages ne sont pas très bons pour le PS. Les listes socialistes arriveraient en troisième position, derrière la droite et l'extrême droite, en particulier dans deux régions. Au nord, c'est la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais avec Marine Le Pen. Au sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Marion Maréchal Le Pen. Que faire quand on arrive troisième et que le Front National peut l'emporter? Anne Hidalgo, la maire de Paris, a un avis très tranché.
Fusionner, je n'y crois pas une seconde, mais là où il y aura un risque majeur d'avoir le Front National à la tête de ces régions, il faudra se retirer. Voilà. Je préfère aucun socialiste dans un exécutif plutôt que le Front National à la tête de ces exécutifs.
Est-ce qu'on fait tout ?
Roselyne Fèvre de France 24.
Manuel Valls, vous avez dit on fera tout pour empêcher le Front National de gagner. Donc j'imagine que cette stratégie de second tour, eh bien, vous y avez pensé, vous l'anticipez. Est-ce que le PS va se retirer en faveur d'une liste des Républicains ?
Mais il y a 12 régions hexagonales.
Oui, mais vous notez que le rapport de force n'est pas en votre faveur.
Et je ne parle pas de la Corse et je ne parle pas des Outre-mer. Tout le monde mène ou va mener campagne pour ces nouvelles régions qui dessine cette nouvelle France des régions que nous avons souhaitées, avec des régions plus fortes, notamment sur le plan de l'économie, de la formation, de l'emploi. Et une ou deux seules régions, même si je vais y revenir, ne peuvent pas empêcher les campagnes, le débat d'avoir lieu sur l'avenir des régions. Avant le deuxième tour, il y a un premier tour. Et donc il faut
ça, c'est la question, c'est la réponse classique qu'on nous donne.
Eh bien oui, mais comme vous posez toujours la même question, moi je vous apporte toujours la même réponse.
Mais les électeurs ont quand même le droit de savoir ce que vous allez faire entre les deux tours. Il faudrait leur dire.
D'abord, il faut que les têtes de liste, les candidats, fassent campagne, présentent leur projet. Il faut que la gauche soit unie. À quelques jours, quelques semaines, ça ne m'a pas échappé, du dépôt des listes, chacun doit prendre conscience, dans les deux régions que vous avez citées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, que plus la gauche est haute, plus elle est forte au premier tour, plus les chances de l'emporter au deuxième tour sont là pour empêcher, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la victoire du Front National. Ça, c'est la première condition. Et il faut mener campagne. Et moi, je m'engagerai dans la campagne. Parce que si on ne fait pas campagne et si on ne fait que répondre à votre question, nous ne mènerons jamais campagne. Deuxièmement, je l'ai dit aussi clairement, il est hors de question de laisser le Front National gagner une région. Donc tout devra être fait pour l'empêcher. Tout devra être fait pour l'empêcher. Donc je vous donne rendez-vous le soir du premier tour.
Laure Breton de Libération.
Est-ce que vous répondez aux électeurs, justement, de gauche de la région PACA, qui se disent maintenant, en fait, le vrai vote utile, c'est de voter à droite au premier tour. C'est d'empêcher et de le mettre la droite très haut pour empêcher justement que la région...
Ce que je demande aux électeurs de gauche qui veulent que la gauche soit forte, qu'elle...
Ils ont déjà vécu ça à Toulon, ils veulent pas avoir à déserter...
Je connais l'exemple qui a été pris, mais cette région a été administrée, gérée, animée par toute la gauche autour de Michel Vauzelle pendant plusieurs années, avec un bilan remarquable, avec un travail avec l'autre côté de la Méditerranée. Ils veulent que ça continue ou que ça ne continue pas? Donc, il faut pour cela que les listes menées par Christophe Castaner soient le plus haut possible au premier tour. Et le soir du premier tour, nous ferons l'addition, et ça sera la même chose dans le Nord-Pas-de-Calais, avec le score des autres listes de gauche, puisqu'elles vont devoir fusionner. Et à partir de là, on verra quelle est la stratégie. Mais avec une volonté, rassembler, faire en sorte que la gauche emporte le maximum de régions, et ne rien faire, puisse amener le Front National à gagner une ou deux régions. Ça, c'est ma conviction. Mais chaque chose en son temps. Ne nous trompons pas de tour. Il y a un premier tour et ensuite
mais
un deuxième tour.
Mais la division égale échec.
Mais ça n'a échappé à personne. Mais nous, le Parti Socialiste souhaite ce rassemblement. D'autant plus que écologistes, communistes, socialistes ont gouverné toutes ces régions ensemble. Pourquoi se diviser alors qu'en plus il y a un danger, celui de l'extrême droite. Donc à chacun de prendre ses responsabilités, aux électeurs aussi de prendre leurs responsabilités, s'ils ne veulent pas du Front National, à eux aussi de faire en sorte que cela ne soit pas possible.
Monsieur le Premier ministre, projetons-nous après ces régionales qui s'annoncent donc comme une défaite pour votre camp.
Mais attendez, nous sommes dans une radio, une télévision, un journal.
Non mais il y a des sondages, vous êtes obligé d'en tenir compte.
Les sondages, malheureusement, y compris, nous l'avons vu autour de nous, peuvent aussi se tromper. Et ils se tromperont, d'autant plus si nous menons campagne. Moi je suis volontariste, je suis combatif, je m'engage contre le Front National.
Vous nous dites ce soir que vous allez gagner les élections régionales.
Je me suis engagé au moment des élections départementales contre le Front National. Il faut s'engager, parce que si on ne mène pas la bataille, on ne change pas, en effet, les sondages. Je ne dis pas cela. Nous avons, à part l'Alsace, parce que nous étions dans l'opposition aussi, nous gérons toutes les régions Donc, de toute façon, on a bien compris.
Vous dites volontariste, ici on va voter notamment dans les quartiers populaires pour les régionales. Il y a une question de signal, de bon signal ou de mauvais signal envoyé. Il y a quelques jours, vous avez décidé, en tout cas l'État a décidé de se pourvoir en cassation dans l'affaire quand l'État a été condamné pour discrimination et contrôle aux faciès. Est-ce que c'est pas aussi une forme de mauvais signal? Vous étiez quasiment le seul sur cette ligne au gouvernement. En tout cas, il se dit que votre garde des Sceaux, notamment, n'était pas favorable à ce que l'État se pourvoie en cassation. Pourquoi l'avoir fait? Est-ce que c'est pas un mauvais signal envoyé au quartier à quelques semaines d'une élection?
Comment pouvez-vous dire une telle aberration?
Laquelle?
Celle que vous venez de dire. J'étais seul. C'est le parquet qui a décidé. Comment pouvez-vous penser un seul instant?
Donc l'État et le gouvernement n'ont pas son mot à dire sur un tel dossier.
Mais comment pouvez-vous penser, pour des raisons essentiellement juridiques? Ils seront un peu compliqués.
Il y a une dimension politique dans une telle affaire, vous le savez.
Oui, mais nous respectons encore une fois l'indépendance et le travail de la justice.
Est-ce que vous étiez favorable?
Et donc il y a eu le cours de cassation. J'ai pas à donner mon avis là-dessus. Enfin, vous avez une drôle de conception de mon intervention dans la justice.
J'écoute ce qu'il se dit.
Donc, faut faire attention parfois à ce qui se dit dans la presse.
Manuel Valls, c'est l'invité de Mardi Politique. Dernière séquence de l'émission. Eh bien, on va enchaîner.
Voilà. Mardi Politique.
On est pour le débat ici.
Oui, c'est en direct, monsieur le Premier ministre. C'est la séquence tac au tac. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. C'est Ilyes Ramdani qui commence.
Vous parlez de mixité sociale dans les banlieues. Est-ce que vous, Manuel Valls, vous êtes prêt, en 2017, aujourd'hui vous vivez à Matignon, à venir habiter en banlieue?
J'ai habité en banlieue pendant plus de 20 ans.
Vous y retournerez en 2017, par exemple?
Ça dépend de ce que deviendra ma vie. Mais d'abord, ça me regarde. J'ai habité en banlieue depuis 1988. J'ai quitté Évry il y a pas tôt de temps. Et mes enfants sont toujours scolarisés à l'école publique.
Rosine Fèvre.
À Évry. Hein? Vérifié.
Monsieur le Premier ministre.
Fais confiance.
Merci.
Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Emmanuel Macron?
Rien. Pourquoi il est concerné par notre débat ce soir, Emmanuel
Non,
Macron?
Mais c'est des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
Rien ne m'énerve. Un garçon qui est talentueux, qui est un ministre utile au gouvernement, qui incarne du renouvellement dans la vie politique. Rien ne m'énerve.
Utile à la gauche?
Utile à la gauche. Et il est de gauche.
Laure Breton.
Vous dites qu'il faut du beau dans les banlieues. Quelle est la dernière chose belle que vous ayez vue?
Hier, au Muro. Ces formidables équipements autour d'une deux écoles, une ludothèque, une salle de spectacle, ce centre Molière.
Vous avez vu les locaux du Pont du Blog aussi.
Il y a du travail encore.
Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui vous empêche parfois de dormir la nuit?
Beaucoup de choses, bien sûr, mais sans doute ce qui fait que mes nuits sont un peu plus troublées, c'est depuis le mois de janvier, c'est... la menace terroriste, bien sûr. Parce que là, on est dans quelque chose de grave qui touche à l'essentiel.
Rosine Fèvre.
Dans Racine, Titus dit à Bérénice, il ne s'agit pas de vivre, il faut régner. Est-ce que vous avez le temps de vivre, Manuel Valls, quand on dirige et quand on gouverne la France?
Il faut toujours trouver un moment pour vivre, pour ses proches, pour ma mère, pour ma compagne, pour mes quatre enfants, pour... mes amis, mais c'est vrai que l'action gouvernementale à ce niveau, face à tous les défis de la France, économique, le terrorisme, le dossier des migrants, l'avenir du pays, de sa jeunesse, des banlieues, la transition énergétique, etc.
Ça donne le tournis.
Oui, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est le choix que j'ai fait, c'est un choix de vie. Quand j'étais maire, cela me prenait aussi beaucoup de temps, nuit et jour, les week-ends, mais être au service des autres, j'y consacre ma vie et je ne vais pas m'en plaindre.
Mais c'est peut-être pas fini.
J'espère que ce n'est pas fini.
Laure Breton.
Vous prenez le temps de vivre, est-ce que vous avez le temps de rêver? Est-ce que vous avez un rêve que vous aimeriez réaliser?
Un rêve, j'aimerais que... Non, mais pas pour moi. C'est peut-être le combat de ma vie. C'est que les Français, et notamment ceux qui sont de toutes ces origines, qui font la force et la diversité de nos quartiers, soient fiers d'être Français.
La toute dernière question, très rapidement, monsieur le Premier ministre, serez-vous tout... C'est Ilyes Ramdani qui vous la pose.
Le suspense est entier. Je suis un peu naïf, est-ce que vous serez toujours Premier ministre après les régionales?
Oui, je le crois. Je le crois, je continuerai mon action jusqu'en 2017.
C'est un remaniement?
Nous verrons bien, mais est-ce que pour le moment ça intéresse grand monde? Non. Non, mais il faut de la continuité dans l'action gouvernementale. C'est comme ça qu'on réussit. Regardez les chiffres du chômage.
Merci Manuel Valls d'être venu dans Mardi Politique. Merci au Bondy Blog et en particulier à Nordine Nabili pour l'accueil. À Bondy, cette émission a été réalisée par Mathias Golshani. Très bonne soirée à tous.